Charleroi, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. À ce micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 1er mai 2023. Il est 17h30 temps universel. Voici le sommaire. C'est la journée internationale du travail. Nous aurons les échos des manifestations dans plusieurs pays.
Ce 1er mai 2023 est très important pour nous quand même parce que nous vivons une situation sécuritaire très mauvaise.
Au Soudan, l'armée et les paramilitaires ont prolongé de 72 heures une trêve qui n'est pas respectée. Le gouvernement de Djibouti a annoncé hier une campagne de répression de l'immigration clandestine. Joe Biden reçoit ce lundi son homologue philippin Ferdinand Marcos dans un contexte de forte tension avec la Chine. Dans une dizaine de minutes, la minute écho en Égypte, augmentation des prix de plusieurs produits subventionnés à partir de ce lundi et les sports avec le point sur la Ligue africaine de basket. Pour commencer, le journal. Au Soudan, de violents combats se poursuivent ce lundi entre militaires et paramilitaires malgré la prolongation supposée du cessez-le-feu. Les États étrangers achèvent les évacuations de leurs ressortissants et les Nations Unies mettent en garde contre un point de rupture humanitaire. Alexandrine Ollognon.
Khartoum survolé par les avions de combat, tandis que des tirs et explosions résonnent dans différents quartiers selon des témoins. Le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, et le commandant des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo, avaient accepté de prolonger dimanche un cessez-le-feu de 3 jours après une médiation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Depuis le début du conflit, plusieurs trêves ont été annoncées, mais n'ont presque jamais été respectées. Les hôpitaux et dispensaires du pays ont été pour beaucoup bombardés, occupés par des belligérants ou n'ont aujourd'hui plus de personnel ou de stock. Médecins sans frontières a été forcé d'arrêter la quasi-totalité de ses opérations. En raison du chaos et de l'exode massif des humanitaires étrangers, l'aide ne pourra plus parvenir aux 16 millions de Soudanais censés en bénéficier, soit un tiers de la population. D'après le directeur régional de l'OMS, la crise sanitaire déjà bien connue au Soudan est devenue une véritable catastrophe avec la guerre.
Plus de 800 000 personnes pourraient fuir les combats au Soudan, a alerté le patron du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi. Nous espérons que nous n'en arriverons pas là, mais si la violence ne prend pas fin, nous allons voir davantage de personnes forcées de fuir le Soudan, a-t-il indiqué. Jusqu'à présent, au moins 73 000 personnes sont arrivées dans les pays voisins depuis que les combats ont éclaté à la mi-avril, selon le HCR, qui avait mentionné 50 000 personnes vendredi dernier. La majorité des personnes ont pour l'instant fui vers le Tchad et le Soudan du Sud. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a demandé pardon aux victimes de plusieurs violentes crises politiques lors d'un meeting à Boaké dimanche, à quelques mois d'élections régionales et locales et à 2 ans de l'élection présidentielle. Je tiens une fois encore à demander pardon à toute la nation et à tous ceux qui ont subi des souffrances terribles, qui ont perdu des parents, des emplois et ont été contraints à l'exil, a-t-elle déclaré à Boaké, ancien chef de l'ex-rébellion, qui avait tenté en 2002 de renverser le régime de Laurent Gbagbo, son ex-mari. Simone Gbagbo a demandé en outre le retour du chef de la rébellion de 2002, Guillaume Soro, aujourd'hui en exil. Le gouvernement de Djibouti a annoncé hier une campagne de répression de l'immigration clandestine. Il justifie cette mesure par des questions de sécurité et de santé publique, Nani Talani.
Le ministre de l'Intérieur de Djibouti, Saïd Nou Hassan, estime que son pays, devenu ces derniers temps une des routes les plus fréquentées pour la migration, est saturé par un afflux de personnes en provenance des pays voisins. Dans une allocution télévisée, il a annoncé 2 opérations pour maîtriser ces flux. Les étrangers en situation irrégulière, exerçant une activité informelle, seront enregistrés et nous allons leur fournir un document de circulation si leurs employeurs les déclarent, tandis que ceux sans activité sont invités à repartir immédiatement et volontairement vers leur pays d'origine, a-t-il indiqué. Il précise que les immigrés clandestins ont 30 jours pour se conformer aux nouvelles règles. La télévision publique assure qu'environ 3000 personnes ont été arrêtées hier par la police en vue d'être expulsées. Selon Saïd Nou Hassan, cette opération policière est destinée à combattre la criminalité et le trafic des produits illicites dans un secteur de la capitale. D'après lui, l'an dernier, 220 000 migrants sont arrivés illégalement à Djibouti, qui compte près d'un million d'habitants.
Le chef de l'UGPT, principale organisation syndicale de Tunisie, Noureddin Taboubi, a remis en cause ce lundi les négociations en cours depuis des mois entre le gouvernement et le FMI pour un nouveau prêt de 2 millions de dollars. Malgré un accord de principe du fonds sur ce prêt à la mi-octobre, les pourparlers piétinent depuis des mois faute d'engagement ferme du président Kais Saied pour restructurer une centaine de groupes publics lourdement déficitaires et lever les subventions sur divers produits de base. Les mesures préconisées par le FMI vont appauvrir davantage le peuple tunisien qui fait face à une forte inflation et un chômage élevé, a dénoncé M. Taboubi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Je vous le disais en titre, ce lundi est la Journée internationale des droits des travailleurs, aussi connue comme la Fête du travail. Cette journée 2023 est placée sous le thème « Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale ». Éric Manirakiza.
L'OIT affirme que les salaires réels ont chuté et que la pauvreté a augmenté dans le monde, soulignant la nécessité d'une approche centrée sur l'humain pour permettre à chacun de poursuivre son bien-être matériel et spirituel dans des conditions de liberté, de dignité et d'égalité des chances. Son directeur général appelle à la révision des lois et des règles qui régissent le monde du travail pour protéger les travailleurs et soutenir les entreprises durables. Une coalition mondiale pour la justice sociale est nécessaire pour rassembler un large éventail d'organismes et d'acteurs internationaux et faire de la justice sociale la pierre angulaire de la reprise mondiale. Le directeur général de l'OIT exhorte à saisir l'opportunité de remodeler le monde dans lequel nous vivons pour construire des sociétés équitables et résilientes pour une paix durable et la justice sociale.
Au Maroc, plusieurs centaines de militants syndicaux ont manifesté ce lundi à Rabat lors de la Fête internationale des travailleurs pour protester contre la détérioration du pouvoir d'achat et la poussée inflationniste marquée par l'envolée des prix des denrées alimentaires. Certains ont appelé le Premier ministre Aziz Akanouche à démissionner. Des rassemblements similaires ont eu lieu à Casablanca, selon la presse locale. Les syndicats exigent notamment le plafonnement des prix des carburants, la réduction des taxes sur les produits de première nécessité et la baisse de l'impôt sur le revenu afin de soutenir le pouvoir d'achat. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden reçoit ce lundi à la Maison-Blanche son homologue Ferdinand Marcos des Philippines dans un contexte de tension avec la Chine. Ce dernier a déjà prévenu que l'archipel des Philippines ne serait pas transformé en base pour une quelconque action militaire. Michel Joseph.
La visite du président Ferdinand Marcos à Washington intervient alors que le 23 avril dernier, des bateaux chinois et philippins ont failli entrer en collision. C'est le dernier incident d'une longue série entre les deux pays qui se disputent la souveraineté de plusieurs îles en mer de Chine méridionale. Le président philippin s'est présenté, après son élection, comme le partisan d'une relation équilibrée avec Washington et Pékin, où il s'est rendu en janvier. Nous ne permettrons pas que les Philippines soient utilisées comme base d'une quelconque action militaire, a-t-il déclaré dimanche à bord de l'avion qui l'emmenait à Washington. Les Philippines, ancienne colonie américaine, sont liées aux États-Unis par un traité de défense mutuelle depuis 1951. La relation a été bousculée par le précédent président, Rodrigo Duterte, qui voulait un rapprochement avec la Chine. Joe Biden avait déjà rencontré Ferdinand Marcos en septembre à New York. Les deux pays viennent d'achever leur plus grande manœuvre militaire. Mani va autoriser l'armée américaine à utiliser 4 bases supplémentaires, dont des installations navales non loin de Taïwan.
Une personne est morte et 39 ont été blessés, dont 7 grièvement, lorsqu'un car transportant des travailleurs saisonniers marocains s'est renversé ce lundi dans le sud de l'Espagne, ont annoncé les services d'urgence. L'accident s'est produit juste avant le lever du soleil sur une route à environ 50 km de Huelva, une ville d'Andalousie. On ignorait pour l'instant ce qui avait provoqué ce drame dans une région connue pour sa puissante industrie agroalimentaire, la région andalouse étant le premier exportateurs européens de fruits et légumes. L'Espagne compte traditionnellement sur des milliers de travailleurs saisonniers étrangers pour la cueillette des fruits. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Un entrepreneur sénégalais a commencé à vendre les premières planches de surf fabriquées localement. C'est dans une petite cabane au bord de la plage à Dakar que Pape Diouf, 27 ans, premier fabricant de planches de surf au Sénégal, travaille avec une raboteuse électrique et des matériaux tels que la fibre de verre qu'il doit importer d'Europe. Il en personnalise certaines en les décorant de tissus africains. Les planches de Pape Diouf se vendent à environ 250 000 francs CFA chacune. Le ministère égyptien de l'approvisionnement a augmenté le prix de la plupart des produits subventionnés qui seront vendus à plus de la moitié de leur prix habituel à partir de ce lundi. Selon l'agence Reuters, le pain subventionné à plus de 70 millions d'Égyptiens reste inchangé. Plus de 60 millions de personnes reçoivent une carte de rationnement de 1,62 $ par mois pour acheter des produits à des prix subventionnés, dont des pâtes, de la farine et des fèves. Pour terminer, en Égypte, la Compagnie nationale de pétrole annonce la reprise du pompage de gaz naturel de Brega vers la ville d'Al Qoums avec une capacité de 100 millions de pieds cubes par jour. Cette annonce intervient après un arrêt de 12 ans, indique la Société nationale de pétrole libyenne.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Salut Yacouba.
Bonsoir Mohamedou, bonsoir à tous.
Petro de Luanda, presque qualifié pour les play-offs de la Basketball Africa League.
Oui, hier dimanche, les Angolais de Petro Luanda ont presque assuré leur billet pour les play-offs après leur troisième victoire en trois matchs. Cette fois-ci, ce sont les Sud-Africains de Cape Town Tigers qui en ont payé les frais, battus 87 à 48. Difficile par contre hein, pour les Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club qui ont perdu 109 à 97 devant Ferroviário da Beira du Mozambique. C'est la deuxième défaite d'affilée pour les Guinéens dans cette conférence en île. Pas de match aujourd'hui, les rencontres reprennent demain mardi. Deux matchs au programme City Oilers de l'Ouganda et Seydou Legacy Athletic Club. 0-2 s'affrontent. Juste après, les hôtes égyptiens d'Al Ahly voudront enchaîner une troisième victoire devant les Sud-Africains de Cape Town Tigers.
Ici en NBA, on aura un choc Warriors-Lakers en demi-finale de conférence.
Stephen Curry contre LeBron James, frisson attendu. Bagassi Koura.
Les Warriors champions en titre affronteront les Lakers titrés en 2020. Dès demain mardi en demi-finale de conférence Ouest. Pour que cette opposition soit, il a fallu une masterclass à 50 points du meneur des Golden State établissant un record sur un septième match décisif pour écarter Sacramento 120 à 100. De quoi récolter des louanges de toute la planète NBA, sa performance ayant été qualifiée de légendaire par Kevin Durant, l'ancienne idole des Lakers, Magic Johnson, la place parmi les plus grandes qu'il ait jamais réussi. Quant à l'entraîneur Steve Kerr, il compare Curry à l'illustre Michael Jordan. De leur côté, barragistes, les Lakers n'en ont pas moins impressionné pour se débarrasser 4-2 des Grizzlies. Warriors-Lakers, cela fait longtemps que cela n'a pas eu lieu. En phase finale, a souligné le shooter de Golden State, Klay Thompson, qui n'avait qu'un an la dernière fois que cela s'est produit en 1991. À l'époque, son père, Michael, faisait partie de la bande à Magic Johnson qui l'avait emporté 4-1 en demi-finale de conférence. Comme presque à chaque fois, car en cette série, les Warriors se sont inclinés à 6 reprises, leur seule victoire 3-0 datant de 1967.
Football maintenant avec le début le week-end de la CAN des moins de 17 ans en Algérie.
Belle entente du pays hôte qui a disposé de la Somalie 2-0, score identique en faveur du Maroc face à l'Afrique du Sud. Début réussi aussi pour le Sénégal et le Nigeria qui ont battu respectivement 1-0, le Congo et la Zambie. Un seul match à suivre aujourd'hui dans la poule C, Mali-Burkina Faso. Le second qui devrait opposer le Cameroun au Soudan du Sud a été annulé, car la CAF a disqualifié les Soudanais dont 4 joueurs n'ont pas répondu favorablement au test IRM mis en place pour lutter contre la fraude sur l'âge. Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa toujours avec vous. À présent, les dossiers du jour. Au Burkina Faso, la fête du travail ce 1er mai 2023 se célèbre dans un contexte particulier du fait de la crise sécuritaire. Le gouvernement de transition a fait adopter le mois dernier une loi dite de mobilisation générale et de mise en garde. Certaines centrales syndicales préviennent que cette loi ne saurait les empêcher de s'exprimer et d'exercer leurs droits. Yakuba Ouédraogo a joint à Ouagadougou Ernest Ouédraogo, président du mois des centrales syndicales.
Ce 1er mai 2023 est très important pour nous quand même parce qu'il y a, nous vivons une situation sécuritaire très 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 mauvaise. Il y a aussi que nous avons également un pouvoir en place qui n'est pas issu des unes, mais un pouvoir qui tente de se maintenir à travers cette décision. Donc nous sommes obligés quand même de regarder et de donner de la voix.
Quand vous dites un pouvoir qui tente de se maintenir par certaines décisions, quel genre de décision par exemple?
Par exemple, nous avons une décision aujourd'hui qu'ils ont appelée mobilisation générale et mise en garde, qui sont des dispositions bien sûr qui existent au niveau de nos constitutions, mais qui n'ont jamais été activées. Et puis aujourd'hui, en l'activant, le pouvoir se donne savoure vraiment tous les droits de piétiner toutes nos libertés sous prétexte d'insécurité.
Est-ce que vous l'avez fait savoir au gouvernement?
Nous dénonçons ces manières de faire et nous attirons l'attention des décideurs à travers des dénonciations, mais il n'est pas exclu que si le pouvoir continue, accentue la restriction de nos libertés, que nous donnons toujours de la voix et que nous manifestons à travers plusieurs manières. Ça peut être une marche, ça peut être un sitting, ça peut être tous les moyens syndicaux.
Alors justement, depuis un certain temps, vous ne revendiquez plus, je vais parler de l'unité d'action syndicale. Est-ce que ça, c'est le fait du pouvoir?
Non, depuis un certain temps, nous ne revendiquons pas, parce que aussi nous avons pris conscience qu'en dérangeant le climat social, ça empêche le gouvernement, les décideurs de se recentrer sur la question de sécurité. Et si au-delà de tout ça, ça doit être pris comme étant un acquis ou un abandon de nos droits et tout, nous allons donner de la voix.
Est-ce que vous ne vous sentez pas libre de vous exprimer ou de revendiquer?
Oui, nous sentons qu'il y a des velléités de restriction de nos libertés à travers des prises de décisions, à travers l'activation de la loi. C'est la mobilisation générale et la mise en garde, parce que là, ça donne libre cours au pouvoir en place de pouvoir prendre des décisions de restriction de liberté, d'expression et de démocratie.
Est-ce que cette loi vous empêche clairement d'exprimer votre liberté de revendiquer ou de manifester?
Non, dans tous les cas, nous allons continuer à revendiquer plus de liberté et plus de démocratie. Maintenant, c'est vrai que le pouvoir en place pourra utiliser la loi pour faire la répression et dire qu'il est dans la légalité.
Ce qui ne serait pas faux.
Oui, mais ce que nous allons refuser.
Ernest Ouédraogo, président du mois des centrales syndicales du Burkina.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Guinée, la fête internationale du travail est célébrée dans un contexte de revendication sociale. Des enseignants contractuels menacent de déclencher une grève si le gouvernement ne répond pas favorablement à leur demande. Reportage de Zakaria Camara à Conakry.
Devant des centaines de travailleurs guinéens mobilisés à Conakry, le Premier ministre recommande le dialogue.
L'ouverture prochaine des nouvelles négociations sera une opportunité de faire la revue des actions et échanger sur les nouveaux points que nous venons d'entendre ici, qui avant tout sont légitimes pour les travailleurs.
Le mouvement syndical guinéen a placé cette célébration sous le signe du dialogue social pour une justice sociale durable. Le mot justice n'est pas fortuit pour le secrétaire général de la CNTG, Confédération nationale des travailleurs de Guinée, qui a voulu attirer l'attention du gouvernement sur l'inégalité sociale. Amadou Diallo.
Le fossé entre les nantis et les pauvres prend chaque jour des proportions inquiétantes malgré un potentiel économique des plus enviés du continent africain. L'inquiétude est davantage grandissante lorsqu'on observe la situation du milieu de jeunes diplômés ou non, condamnés au chômage ou exposés à des formes d'exploitation, à un sous-emploi dans nos villes. Or, cette justice ne peut se réaliser que si les droits des uns et des autres sont pleinement reconnus.
La fête internationale du travail arrive cette année dans un contexte de menace de grève. Les enseignants contractuels réclament à l'État guinéen 6 mois d'arriérés de salaire. Amadou Magarousso, secrétaire général adjoint du syndicat national de l'éducation.
Ce sont des contractuels qui travaillent depuis la rentrée de classe, ils sont en situation de classe, ils travaillent, et l'État n'a payé qu'un seul mois. Donc à ce jour, l'État doit 6 mois de salaire contractuel à ces travailleurs-là. Et si le gouvernement ne le prend pas au sérieux en tenant compte des points de revendication ou en engageant les enseignants contractuels, nous passerons à la vitesse supérieure. Nous allons plutôt déposer un avis de grève.
La fierté de la vie en Guinée reste une difficile situation pour des travailleurs dont certains, pour faire face à la précarité, réclament une revalorisation de leur salaire. Zakaria Kamara pour VOA Afrique Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs autres pays, célèbre la fête du travail. Cependant, tout le monde n'a pas l'esprit à la fête, surtout ceux qui sont sans emploi. Reportage de Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
La fête du travail célébrée le 1er mai dans de nombreux pays du monde est l'occasion pour les mouvements syndicaux d'organiser des manifestations pour mettre en exergue les difficultés des travailleurs et célébrer leurs droits. Récemment en Côte d'Ivoire, l'État annonçait plusieurs mesures pour la revalorisation des salaires et le bien-être de ses travailleurs. Des mesures qui ont abouti à une trêve sociale. Mylène Adou, fonctionnaire, agent de l'État.
Les travailleurs doivent avoir un jour pour se reposer et puis pour jouer un peu de tout ce qu'ils ont su recueillir toute l'année.
Interrogés dans les rues de la capitale économique ivoirienne, ces travailleurs racontent le jour où ils ont eu droit à leur tout premier boulot.
Moi, c'était un grand souvenir pour moi. Vraiment, je n'ai jamais oublié ce souvenir-là. C'était en 2018. Ça m'a permis d'avoir aussi d'autres opportunités.
Mon premier emploi, d'abord, j'ai été vigile dans une boîte de sécurité dans les années 2000-2006. En ce moment, on était payé à 37 000.
C'était à Thiès-Salé, à la nouvelle SIGA. C'est une plantation d'ananas en 84. Moi, j'étais l'infirmière là-bas de la société.
Par contre, malgré toutes les opportunités d'emploi qu'offre le gouvernement ivoirien à travers le ministère de la Jeunesse et l'Emploi des Jeunes, il y a d'autres personnes, en majorité des jeunes ivoiriens, qui n'ont toujours pas accès au travail. Joël Kofi, titulaire d'un BTS en gestion commerciale, gérant des cabines dans le quartier Oasis, dans la commune de Yopougon.
Alors, on a tenté des concours et ça n'a pas marché. Donc, on ne peut pas rester à la maison, puisque j'ai fait une formation commerciale. C'est cela que j'ai pensé à mettre un petit truc en place.
De l'autre côté de la rue, un autre diplômé, titulaire d'un brevet de technicien supérieur en communication et ressources humaines, tient un cybercafé. Pour lui, l'auto-emploi peut être une des solutions face au chômage.
L'État ne peut pas employer tout le monde. Tout ce que l'État peut te donner, c'est une formation. Après la formation, maintenant, il faut créer, il faut innover. c'est dans l'innovation qui va se faire la persévérance.
Et à Georges Melej, jeune fonctionnaire du privé, d'ajouter.
C'est bon de faire du travail à tous les travailleurs. Que le travail arrive entre les mains de ceux qui ne travaillent pas. Le chômage va bientôt finir.
Rappelons que les États-Unis, tout comme le Canada, eux, célèbrent la fête du travail le premier lundi de septembre de chaque année. Delphine Abouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir des travailleurs dans une économie mondiale en perpétuelle mutation. La fête internationale du travail a été célébrée cette année dans un contexte post-Covid qui a suivi 3 années de pandémie et a durement affecté le monde de l'emploi. L'OIT appelle à une mobilisation pour remodeler les politiques économiques, sociales et environnementales pour un avenir plus stable et plus équitable. Quel avenir pour le marché du travail? Quel rôle pour les syndicats avec la baisse de l'emploi salarié? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Au Nigeria, la célébration de la fête du travail a été marquée par un rassemblement géant à Abuja, la capitale fédérale, pour attirer l'attention du nouveau président élu sur les nombreux défis auxquels sont confrontés les travailleurs de la fonction publique. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Ils étaient des centaines de milliers de travailleurs venus au stade Igoskwe d'Abuja pour ce traditionnel rendez-vous du 1er mai. L'occasion de manifester et de faire des doléances au pouvoir sur leurs conditions de travail, d'exiger des augmentations de salaire et plus d'emplois. Adams, fonctionnaire d'État.
Ils doivent s'assurer que les salaires augmentent. L'économie du Nigeria n'est pas vraiment bonne par rapport à ce que nous percevons comme salaire. Au moment où vous percevez votre salaire à la fin du mois, cela ne vous suffit pas. Ils devraient donc se pencher sur notre source de revenus. Ils devraient l'améliorer pour nous afin que nous puissions avoir une vie meilleure.
Ce rassemblement est le premier du genre du front commun auquel fera face le nouveau gouvernement qui doit être investi ce mois-ci. Un front qui permettra aux syndicats nigériens de mieux porter leurs revendications. Le prix des produits de première nécessité, des loyers, de l'essence, de l'électricité, la précarité de l'emploi, le chômage des jeunes. Écoutons Salako Kayode du mouvement de solidarité des jeunes travailleurs.
Avec l'inflation et la situation économique du Nigeria, les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. Les travailleurs souffrent car le salaire minimum actuel ne pourra jamais répondre aux besoins de quelqu'un compte tenu du niveau de l'économie.
Les principales centrales du pays, qui représentent le puissant mouvement syndical au Nigeria, ont réussi à mobiliser leurs membres pour faire entendre leur voix. Makodi Daniel, syndicaliste, dénonce ce qu'il considère comme des privilèges accordés aux nantis de la société.
Nous devrions avoir un gouvernement voté par les travailleurs. Nous ne pouvons pas permettre aux membres du club des milliardaires de venir gouverner la société pour nous. Ils ne la gouverneront pas dans notre meilleur intérêt.
Cette année, la fête du travail est célébrée au Nigeria à quelques jours de l'investiture du nouveau président Ahmed Bola Tinubu. Et les travailleurs attendent beaucoup de la nouvelle administration. Selon certaines estimations, la population active au Nigeria atteindrait plus de 66,8 millions de personnes en 2022. Le taux de chômage était alors autour de 33%. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mohamedou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, www.voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute de nos programmes. Bonne fête du travail à tous les travailleurs en Afrique et ailleurs. Au revoir.
Kerna bigi akine tene